Nous, à Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Principe actif, le mix des cultures.
Why are you so scared?
It much too soon. Summer was ending right in the middle of June. Plans that were spoken, and there's nothing you can do. Sleep through the winter, wake up the next season.
7h à Tel Aviv, midi à Oulan-Bator.
Et 4 heures en temps universel. Bonjour Marion Cazanov.
Bonjour Arthur Ponchelet.
Une nouvelle demi-heure d'actualité avec vous et à la une, la population israélienne divisée sur le plan de paix à Gaza.
Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a officiellement rejeté ce projet américain en 15 points. Un calcul politique à quelques mois des législatives, quitte à prendre le risque de se lancer dans un bras de fer avec Washington. L'escalade se poursuit au Yémen. Les rebelles houthis poursuivent leur frappe contre les forces gouvernementales et leurs alliés saoudiens. Reportage dans ce journal en Mongolie, pays voisin de la Russie, très dépendant de son or noir et qui subit aussi les conséquences des frappes ukrainiennes sur le pétrole russe. Un défi quotidien pour se déplacer, on va l'entendre. Ce 10 août marque la journée mondiale contre la chasse aux sorcières. Au Ghana, ces accusations coûtent parfois la vie. Des ONG veulent l'inscription d'une loi pour protéger ces femmes. Et puis l'Europe attend un phénomène astronomique rarissime, une éclipse solaire. Ce sera mercredi. Une éclipse tout aussi impressionnante que dangereuse pour l'observer. En toute sécurité, il faut des lunettes spéciales. L'impasse à Gaza après le rejet officiel du plan américain pour un désarmement du Hamas contre un retrait israélien de l'enclave. Le Premier ministre israélien a fini par sortir de son silence et exclut tout retrait avant un réel désarmement du groupe islamiste. Benjamin Netanyahou prend ainsi le risque de se brouiller avec son principal allié, le président américain, mais il espère probablement solidifier sa base électorale à quelques mois des législatives. Ce refus net provoque de vives réactions au sein de la société israélienne, toujours aussi divisée sur la question. À Jérusalem, Michel Paul.
Le couperet est tombé au bureau du Premier ministre à Jérusalem. Aucun retrait militaire de Gaza sans désarmement intégral du Hamas. En rejetant le plan international en 15 points, Benjamin Netanyahou suscite un vif désaccord dans les rues. Shai est un réserviste en permission, venu se rafraîchir à une terrasse de café du centre-ville.
C'est une honte absolue, le refus de Netanyahou d'envisager la moindre perspective et de prendre ses responsabilités. Au lieu de poursuivre ce massacre sans fin, c'est un drame pour des générations.
Une impasse politique que certains attribuent directement au choix de stratégie du Premier ministre Gaza, comme le dénonce Roni.
Il va tout faire pour faire capoter n'importe quel plan tant que ça sert ses intérêts. Il faut absolument que nous sortions de là-bas tout en exigeant qu'ils soient désarmés.
Mais face à ces critiques, la ligne de fermeté affichée par le gouvernement conserve de fervents partisans. Pour Hadi, la sécurité prime surtout.
Ma réponse, c'est qu'aucun retrait de l'armée ne doit avoir lieu tant que nous ne sommes pas certains qu'il n'y a plus aucun danger pour Israël. Notre sécurité est prioritaire. Le coup que nous avons subi était trop lourd.
Et entre rejet du gouvernement et impératif de sécurité, la société israélienne demeure profondément fracturée face aux suites du conflit. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Cet accord refusé par Benjamin Netanyahou est censé lancer la deuxième étape du plan de paix. Et pourtant, la seule voie à suivre a regretté hier le représentant du Conseil de la paix pour Gaza, conseil créé par Donald Trump. Ce dernier ne s'est pas encore exprimé sur le sujet, mais il a de nouveau abordé la situation en Iran. Le président américain affirme que son pays reste discret pour l'instant et se contente de constater le très mauvais état de l'économie iranienne. Téhéran, de son côté, a durci le ton hier. L'Iran affirme que le détroit d'Ormuz restera fermé tant que Washington n'acceptera pas toutes ses conditions. Un autre conflit prend de l'ampleur dans la région. Les rebelles houthis du Yémen ont revendiqué de nouvelles frappes. Hier, 11 personnes, civiles et militaires, ont été tuées dans un port contrôlé par le camp rival, à savoir le gouvernement qui est reconnu par la communauté internationale et soutenu par l'Arabie Saoudite. Les rebelles, soutenus eux par l'Iran, ont d'ailleurs aussi frappé l'Arabie Saoudite hier en ciblant une raffinerie dans le sud-ouest. Une escalade donc dans ce conflit gelé par une trêve en 2022, une escalade difficile à enrayer, selon l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen, le Suédois Hans Grundberg.
Mon travail de médiateur, c'est d'essayer de trouver des solutions là où on ne pense pas qu'il y en a. Et pour l'instant, je dois dire que c'est un travail assez difficile. Surtout dans la logique où on est aujourd'hui, c'est particulièrement compliqué. On rentre dans une situation où une attaque génère une volonté de riposte qui peut ensuite générer une guerre. Et donc, le défi, c'est d'essayer d'appeler aux parties, de faire preuve à une grande retenue. Ça se traduit en des discussions compliquées, des discussions difficiles que j'ai chaque jour.
L'envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen, Hans Grönberg. Propos recueillis par Nicolas Fellmann. Toute la situation dans la région est à suivre minute par minute sur notre direct en une de notre site internet. La Russie dit avoir détruit de nouveaux drones ukrainiens, près de 312 heures seulement, selon le ministère de l'Intérieur. L'Ukraine, dans ses frappes de drones, vise essentiellement le pétrole russe, raffineries, dépôts de carburant, terminaux pétroliers. Avec l'effet escompté, le pays connaît une crise du carburant depuis plusieurs semaines, une crise qui dépasse même ses frontières. Son voisin, la Mongolie, qui importe 95% de son pétrole, subit d'importantes pénuries, rendant le quotidien plus compliqué. Reportage à Oulan-Bator d'Étienne Cholez.
Des hommes dorment par terre, sur le trottoir, à côté de la station-service. Shin Bayer, 45 ans, vient de se réveiller de sa sieste sur le béton.
Ça fait 3 heures que j'attends ici et je suis tout au bout de la file. Sincèrement, depuis une semaine, je passe la moitié de mon temps à attendre pour remplir mon réservoir.
Cette station essence n'est même pas encore ouverte, vide depuis la veille. Mais Sayarna, un chauffeur pour touristes, a laissé sa camionnette toute la nuit devant la barrière. Il veut être certain d'être le premier servi.
Tout est galère. Je travaille moins, je perds de l'argent dans la période de l'année où j'en gagne le plus normalement. Là, je dois amener une famille à un mariage cet après-midi. Si le camion d'essence n'arrive pas dans une heure, je vais devoir annuler.
Car personne ne sait quand ce camion pourra ravitailler la station essence, pas même ses employés comme Ron Goro. Elle patiente sur une chaise de camping.
On est stressé. Hier, après le passage du camion de ravitaillement, on a vidé les cuves d'essence en moins de 3 heures.
Pour éviter les scènes de chaos, le gouvernement mongol a pris des mesures jusqu'au 15 août. C'est 50 000 tugrik, la monnaie locale, maximum par voiture. Ça fait une quinzaine de litres d'essence et un jour sur deux en fonction du dernier chiffre de sa plaque d'immatriculation. Étienne Cholez, Oulan-Bator, RFI.
Au Mali, au moins 12 militaires tués dans la ville de Sant, dans le centre. Les djihadistes du Jnim ont revendiqué cette attaque dimanche dans un camp de l'armée malienne. Ils ont aussi emporté du matériel militaire. L'armée qui affirme que le calme est revenu et qu'elle contrôle bien ce camp. Ce 10 août marque la journée mondiale contre les chasses aux sorcières. Au Ghana, c'est l'occasion de relancer le débat sur la loi contre les fausses accusations de sorcellerie. Il y a 6 ans, une femme de 90 ans en a été victime. Elle a été battue à mort. Les ONG attendent donc un texte de loi pour punir ces fausses accusations. C'est le cas de John Azuma, président du Sanet Institute, ce institut de recherche très impliqué sur le sujet. Il doit bientôt rencontrer la ministre du Genre, de l'Enfance et de la Protection sociale du Ghana.
Sous le gouvernement précédent, le président avait refusé de signer la loi. Aujourd'hui, avec le gouvernement actuel, le président Mahama avait promis que dès son arrivée, il signerait ce projet de loi. Mais puisqu'il s'agit d'un nouveau parlement, le projet de loi doit à nouveau être examiné par celui-ci avant que le président puisse le signer. Mais aujourd'hui, le président et le gouvernement affirment qu'ils ne veulent pas que ce soit un projet de loi d'initiative parlementaire, mais plutôt une proposition gouvernementale. Je vais donc aller demander à Madame la ministre qui, au sein du gouvernement, est en charge de cette question, qui va la faire avancer et aussi comment pouvons-nous, en tant que société civile, apporter notre soutien et veiller à ce que ce projet de loi soit adopté. Cette loi sera un outil supplémentaire d'éducation, de sensibilisation, mais aussi de dissuasion et permettra de rendre justice aux victimes. Nous poursuivons donc notre travail d'éducation et de sensibilisation qui est très important. Mais nous pensons que si nous disposions de ce projet de loi, cela nous aiderait énormément.
John Azuma du Sanet Institute, il répondait aux questions de Wely Diallo. Selon Amnesty International, le Ghana est le seul pays au monde à maintenir des camps de sorcières. Ce sont des villages humanitaires où vivent des femmes accusées de sorcellerie. Ils seront bientôt jugés pour appel à la haine contre les femmes. Ça se passe en France. Une trentaine d'utilisateurs d'une boucle Telegram masculiniste seront jugés à l'automne. Sur ce groupe, donc, des propos misogynes, réactionnaires et qui appellent parfois à la violence. Marie Cazadebès et Desly sont passibles d'un an de prison et de 45 000 euros d'amende.
Ils étaient plus de 1700 à être abonnés à cette boucle de la messagerie Telegram nommée Femme Blancherie. Ils échangeaient depuis le mois de mars des propos sexistes et misogynes, des photos et des vidéos de femmes dont ils se moquaient. Certains appelaient à la haine envers le sexe opposé. C'est grâce à la veille numérique des espaces masculinistes, spécialement demandée par le parquet de Paris, que l'Office central de la lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine repère ces échanges entre des individus de toutes les régions de France, aux profils variés, mais pour la plupart socialement insérés, des infirmiers, des agents pénitentiaires ou encore des conducteurs de transport en commun. 45 ont été interpellés et placés en garde à vue début juin. Tous reconnaissent des messages problématiques, mais certains parlent d'humour noir ou de simples blagues vulgaires. D'autres se justifient par leur agacement ou les effets de l'alcool. 34 d'entre eux devront s'expliquer devant la justice au mois de novembre. Selon une étude de l'université de Dublin en Irlande, reprise dans un rapport parlementaire français publié fin juin sur les dangers du masculinisme, sur certains réseaux sociaux, un jeune homme se voit proposer des contenus anti-femmes au bout seulement de 23 minutes de consultation.
Et précision signée Marie Cazadebé. La Lune s'apprête à voler la vedette au soleil. Après demain, mercredi, le continent européen va connaître une nouvelle éclipse solaire, un phénomène astronomique rarissime. Mais attention les yeux, pour l'observer en toute sécurité, il faut se protéger avec des lunettes spéciales que les pharmacies vendent en ce moment à tour de bras en France, à Rambeng.
Pour observer en sécurité l'éclipse solaire, il faut des lunettes de protection spéciales. Dans cette pharmacie parisienne, les lunettes d'éclipse sont bien exposées et les Français en achètent, comme l'indique Ryan, le pharmacien.
Pour l'instant, on en a eu quelques-uns qui sont venus acheter pour toute leur famille. Donc oui, à coût de 10 lunettes par personne, quoi.
Regarder directement une éclipse solaire, c'est dangereux, comme l'explique le docteur Sarah Ayelocher, chirurgienne ophtalmologue à l'hôpital des 15-20 à Paris.
Alors il y a un danger essentiel, c'est tout simplement la cécité parce que ça peut entraîner la vision d'une tache noire au centre parce que c'est la macula, le centre de la rétine qui est atteint. On appelle ça plutôt la malvoyance parce qu'on verra sur le côté mais on pourra plus lire, plus reconnaître les visages, plus écrire et donc ça c'est vraiment très grave.
Les lunettes spéciales Eclipse sont vendues en pharmacie ou chez des opticiens. Mais si vous les achetez sur internet, il faut surtout vérifier qu'elles sont aux normes.
En gros, si vous regardez à travers, vous voyez rien. On voit vraiment uniquement quand on regarde le soleil et il faut quand même vérifier les normes, au moins CE, ISO. Le but, c'est vraiment pas de vendre des lunettes pour éclipse, c'est vraiment de protéger sa rétine, en fait.
En France, lors de la dernière éclipse solaire de 1999, plus de 250 cas confirmés de lésions oculaires ont été enregistrés, dont 17 cas graves chez les 19-25 ans.
À Rambeng. Et après cette éclipse, les Français devront attendre 2081 pour en voir une nouvelle. Elle, de son côté, a fini par éclipser la concurrence. La néerlandaise Demi Vollering a remporté hier le Tour de France. Elle a fini par distancer la polonaise Kasia Niewiadoma pour arriver avec 1 minute 18 secondes d'avance sur la ligne d'arrivée à Nice, sur la Côte d'Azur. RFI, 6h13 à Nice et à Paris. On poursuit notre tour du monde de l'actualité avec nos chroniques.
RFI, toute l'actualité.
Marion Cazanov.
On va d'abord partir au Venezuela. Plus d'un mois après le double séisme dans le nord, beaucoup de sinistrés sont encore sans logement et doivent gérer le choc de la catastrophe, celui du deuil. L'impact psychologique de ce séisme est encore immense, on va l'entendre. La Chine lance une réforme universitaire, des milliers de cursus supprimés en lettres, en sciences, pour en créer des milliers d'autres dans l'intelligence artificielle. C'est plus adapté, selon Pékin, à la réalité du marché du travail. On sera ensuite aux rencontres photographiques d'Arles, dans le sud de la France. On découvrira l'exposition de Katia Kameli. Elle fait découvrir l'Algérie et son histoire autrement. À suivre également le Conseil Santé, le choix de nos programmateurs. Tout cela avant le retour de l'actualité africaine. Plus d'un mois après le double séisme au Venezuela, des milliers de familles restent sans logement. Le pays a connu le 24 juin dernier l'une des pires catastrophes naturelles de son histoire, avec plus de 6000 morts, des centaines et des centaines d'habitations détruites dans le nord du pays, et avec aussi les séquelles invisibles, les traumatismes liés au choc ou à la perte d'un proche. Des centaines d'habitations ont été détruites donc dans la région de La Guaira. Les besoins psychologiques sont grands dans ce campement de sinistrés où s'est rendu Alice Campignol.
Nous travaillons pour l'organisation Première Urgence et mon collègue et moi, nous sommes tous les deux psychologues.
Dans le refuge dit du terrain de golf, dans la municipalité dévastée de Caravalleda à La Guaira, une équipe de professionnels passe de tente en tente pour faire connaître son travail.
On vous offre un espace d'écoute, un espace où vous pouvez parler, où vous pouvez découvrir des outils pour canaliser vos émotions.
Les besoins sont nombreux ici, la souffrance est partout. Foyers détruits, familles disparues, perspectives d'avenir limitées et souvent l'état de choc. Estefania Guevara est psychologue. Elle s'est isolée quelques instants avec une jeune femme dont elle a perçu le mal-être.
Le problème, c'est qu'elle était en train de cuisiner pour toute la famille. Donc elle nous a demandé de repasser ou bien elle-même.
this town gets lonely after midnight. And when the animal hunger runs deep, I know I'm never gonna get to sleep. Well, some people claim, but I know the deepest, darkest place to go. You never get out once they let you in. You never get out once they let you in. You'll be nothing but a club thing. What would you say? One thing's for certain, that if you get behind the velvet curtain, you'll see that nothing's as sweet as it looks on my TV. You need a cold solar concrete, yeah. You gotta feel without pity. You need a cold solar concrete, yeah. Just like the soul of the city. Watches from the corner. He waits for her to stumble. He knows that he's the king, the king of the cardboard jungle. He knows he cannot afford what it pays to enslave her. He's got a hunger for the sweetest of flavors. The club thing.
Depuis qu'Internet révolutionne les relations entre les hommes en faisant tomber les barrières, les frontières, nos vies, nos sentiments, notre quotidien risque de devenir de moins en moins concret et de plus en plus virtuel.
Principe actif, le mix des cultures.
Internet, c'est en quelque sorte un centre de documentation à l'échelle de la planète.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux, 102.4, dans le sud de l'Eure, 95.9, et partout ailleurs sur principeactif.net.